Alors, ce matin, normalement, je dois développer un peu sur Philippiens chapitre 1, de 12 à 26. C'est le passage qui m'a été donné pour développer ce matin. Et voilà, j'ai tout préparé. Et puis, je ne savais pas qu'il y avait la lecture ici. Je pensais que je devais la faire. Donc, merci beaucoup pour la lecture déjà. Voilà. Donc, nous sommes dans Philippiens chapitre 1 et de 12 à 26. Et le thème qui a été annoncé, c'est proclamer Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, il me semble que selon le passage qui est ici, dans ce livre de Philippiens, je pense que le dimanche passé, selon le passage, on vous a parlé du chapitre premier, peut-être à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. En fait, pour récapituler un peu, ici l'apôtre est en train de prier. Donc, qu'est-ce qu'il fait avant ce verset? Il prie et désire que l'amour se manifeste encore de plus en plus. Que l'amour se manifeste encore de plus en plus. Et la connaissance et toute intelligence. Cela était le sujet de prière de Paul. Et comme pour Éphésiens, comme pour Colossiens, l'apôtre Paul prie pour les Philippiens et il demande, déjà au verset 9 et 11 de Philippiens, il demande ceci, que leur amour abonde. Il demande aussi qu'ils discernent les choses excellentes. Ils demandent aussi qu'ils soient purs et gardés de se faire avoir par le diable. Ils demandent aussi dans ces prières qu'ils soient remplis de fruits de justice et cela qui demeure. Donc tout cela, c'était dans le passage précédent. Et cet après-midi, j'aimerais bien développer avec vous la partie de Philippiens chapitre 1 verset 12 à 26, où on nous a montré déjà à partir du 12e verset, Paul dit ceci, je tiens à ce que vous sachiez, j'ai la version Semer ici, je tiens à ce que vous sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile, c'est-à-dire, nous avons ici une série de nouvelles provenant de la prison. Nous savons que Paul, ici, il est en prison. Et c'est de son importance. Il se réjouit dans la prison. On comprend que l'apôtre est tellement pressé ici de donner ces nouvelles à des lecteurs. Et la meilleure est que l'évangile se répand à Rome comme ailleurs. L'évangile est en train de se répandre. Il se réjouit pour cela. Et à l'heure où il écrit cette lettre dans Philippiens chapitre 1 de 12 à 26, à l'heure où il écrit cette lettre aux Philippiens, c'est une période où règne à Rome l'empereur qu'on a connu sous le nom de Néron, un grand persécuteur des chrétiens. C'est à cette époque-là. Et il est monté sur le trône après que Claudius eut été empoisonné, c'est-à-dire à partir de vers 54 après Jésus-Christ. Et il restera là jusqu'à son suicide. Donc il va se suicider après, en 68 après Jésus-Christ. Donc Paul, ici, il était en prison à Rome, alors qu'il n'avait commis aucun forfait. Il n'est pas un criminel de droit commun. La seule raison pour laquelle il se trouve à Rome en prison, c'est que les Juifs lui reprochaient de répandre des fausses doctrines sur un certain Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'en tant que citoyen de Rome, il a demandé maintenant à comparaître devant l'empereur pour qu'il puisse se justifier. Et non seulement Christ, le nom de Christ a été ainsi proclamé, prononcé, et son message annoncé devant la plus haute instance judiciaire de l'Empire. Et même c'était loin de nuire à la prédication de l'Évangile, en haut lieu, le procès était maintenant favorable, était disponible, parce qu'il pouvait parler de Jésus-Christ. Et ce qui réjouit l'apôtre Paul ici, c'est que non seulement les juges, les avocats, mais aussi tous les militaires ont entendu parler de la bonne nouvelle, ont entendu parler de Christ. Donc l'apôtre ici, nous voyons qu'il n'était pas un homme à se taire, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, c'était quelqu'un qui discutait beaucoup. Et il en a profité de parler de la bonne nouvelle, de parler de Christ à tous ces militaires-là qui se relayaient pour le surveiller. Donc l'emprisonnement de Paul ici, à partir du 12e verset 12 jusqu'à 14, l'emprisonnement de Paul n'avait pas arrêté la propagation de l'évangile, mais avait permis au contraire son avancement. Et nous voyons au verset 12, alors que l'ennemi cherchait à empêcher que l'évangile soit prêché, Dieu faisait tourner les choses. Comment Dieu faisait tourner les choses ? Il changeait les choses en bénédiction. Et les circonstances par lesquelles passait le prisonnier et pour lui-même devenaient une bénédiction pour lui-même, comme aussi pour la prédication de la parole de Dieu. Nous voyons ici que Paul est en prison, mais il en profite pour parler de la bonne nouvelle. Il en profite de parler de Christ. Et tout cela se change en bénédiction. Il est en prison, mais il en profite. Et nous connaissons bien ce passage qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Paul évalue les choses selon Dieu, bien que dans la solitude de la prison, il était assuré que les liens étaient en Christ, c'est-à-dire puisqu'il pouvait annoncer librement l'évangile dans le palais même de l'empereur. Il était libre de pouvoir parler de la parole de Dieu. Il était témoin de Christ devant les hommes du prétoire, là où il était, de la cour royale, et ainsi qu'auprès des soldats chargés de le surveiller. Paul aura donc la joie, cette joie-là de citer. Paul aura cette joie de pouvoir partager la parole de Dieu dans ce que nous pouvons dire dans la maison de César. Et de plus encore, cette opposition du monde à Christ et à l'Évangile n'aura pas seulement occasionné l'emprisonnement de l'apôtre, mais elle servira aussi à stimuler aussi d'autres frères, leur donnant de la hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Nous sommes au verset 14. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi, redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Et ça réjouit Paul dans tout cela, que la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, mais elle stimule encore de l'encouragement. Et les témoins de Christ ne sont pas réduits au silence malgré les attaques de Satan. Donc c'est-à-dire, ils continuent encore de plus en plus à annoncer la parole de Dieu, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Et la prière des croyants de Jérusalem, après la guérison de l'homme boiteux de la porte du temple, dans Actes chapitre 4, verset 31, avait reçu une réponse immédiate. Donc, ils annonçaient directement la parole de Dieu avec courage et avec bravoure. C'est pour cela que, bien-aimés, nous aussi, nous devons avoir ce zèle pour témoigner de la grâce de Dieu dans le monde. Nous devons le faire, nous devons témoigner, même si nous ne savons pas le faire. Mais ne fût-ce que prononcer, ne fût-ce que parler une histoire, raconter un peu. Et même si nous ne pouvons pas le faire, demandons aussi au Seigneur de nous donner la bravoure et même le courage qu'avaient ces Philippiens pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et dans cette partie de Philippiens, chapitre 12, chapitre 1, Paul, pendant que Paul était à Rome en prison, qu'est-ce qui se passe dans la cour, dans la société, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait là aussi des gens qui prêchaient, il y avait des personnes qui prêchaient Christ, mais le problème en est que ils ne le prêchaient pas de bonne disposition. Ils n'avaient pas une bonne disposition dans tout cela. Paul ici, il leur reproche de pouvoir avoir de la jalousie. Ils avaient un mauvais sentiment qui les animait. Certaines personnes, ils avaient des jalousies et ils le faisaient avec un esprit de dispute. C'est pour cela que dans certains commentaires, on peut parler de faux docteurs ou bien de faux prédicateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient remplis de jalousie, ils étaient remplis de disputes. Ils étaient jaloux. Pourquoi ? Ils étaient jaloux de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul avait du succès. Alors il faisait preuve d'une ambition qui n'a pas de place dans l'Église. Il voulait faire mieux que Paul. Il se comparait à Paul. Ils avaient un esprit de compétition à cette époque-là, ce qui s'est passé dans cette cour-là. Par contre, il y en avait aussi d'autres personnes, au contraire, qui agissaient par amour, qui prêchaient la bonne nouvelle par amour, sachant que l'apôtre a été établi pour la défense de l'Évangile. D'autres personnes le savaient. Et ces gens-là ont compris pourquoi il est en prison. Ils ont compris pourquoi Dieu l'a fait venir ici. Et ils ont aussi compris pourquoi, quelle était la raison de ce procès. Et loin d'entrer même en compétition avec Paul, il redouble encore d'amour et de zèle pour l'Évangile. Ils sont encouragés par la constance et la fermeté de l'apôtre Paul. Ils sont encouragés à pouvoir annoncer la parole de Dieu dans toute la ville. Donc il y avait d'autres personnes qui intercalaient le progrès de la parole de Dieu et d'autres encore se réjouissaient, ils agissaient par amour, tout en connaissant que Paul, comme il est en prison, ce n'est pas pour rien, c'est pour aussi annoncer la bonne nouvelle. Au verset 15 et 18, nous voyons que Christ est prêché. Pour Paul, l'essentiel, c'est Christ qui est prêché. Alors que beaucoup de serviteurs annonçaient l'Évangile avec fidélité et par amour pour le Seigneur, d'autres s'étaient joints encore à la prédication avec d'autres motifs très discutables. Profitant de l'emprisonnement de Paul, ils cherchaient à se mettre eux-mêmes en valeur, ces gens-là. Ses frères envieux, ils cherchaient à se quereller entre eux, entre d'autres personnes, pour annoncer l'Évangile. C'est-à-dire, au verset 17, nous voyons qu'ils annonçaient l'Évangile avec un esprit de rivalité. Ils cherchaient même à augmenter la tribulation de Paul pour l'accuser d'autres motifs. Et dans tout cela, nous devons aussi nous interpeller. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que ceux qui annonçons l'Évangile, de quel côté sommes-nous ? Est-ce que sommes-nous de ce côté de ceux qui critiquent l'Évangile, qui sont jaloux de ceux qui progressent, ou bien nous sommes de ce côté-là de ceux qui agissent par amour tout en proclamant l'Évangile ? Mais toutefois, dans tout cela, l'apôtre ayant appris à tout remettre à Christ, qu'est-ce qu'il fait dans tous ces mouvements qui se passent? Il se réjouit quand même de voir que l'Évangile est annoncé. Rien d'autre que les intérêts du Seigneur ne comptent pour lui. C'est-à-dire, ceux qui critiquaient et ceux qui le faisaient de bonne manière, pour lui l'essentiel, que Christ soit annoncé dans tout cela. Et les désirs de Paul ici, malgré toutes les souffrances qu'il y avait, nous voyons au verset 19, à partir du verset 19 à 26, qu'est-ce qui se passe? Paul montre les désirs qu'il avait, malgré qu'il était en prison. L'apôtre Paul exprime son désir, c'est-à-dire de glorifier et de magnifier le Christ, quelle que soit l'issue de son procès. D'abord, qu'il vive ou qu'il meure, peu importe, en fin de compte, pourvu que Jésus-Christ soit connu, soit cru, soit confessé et exalté. C'était là son désir. Il était en prison, il était emprisonné, on le menaçait, tant mieux. Les autres prêchaient l'Évangile par amour, les autres prêchaient l'Évangile en critiquant. Mais lui, son souci, c'était de glorifier Dieu, de le magnifier Christ, quelle que soit l'issue de son procès. Qu'il vive ou qu'il meure, peu importe, afin de compte, pourvu que Jésus-Christ soit connu. Bien-aimés, que nous soyons dans des difficultés, que nous soyons dans des procès, que nous soyons dans la recherche de ceci ou de cela, mais dans la tâche qui nous est donnée en tant que chrétiens, nous devons aussi faire connaître le Christ. Faire connaître Christ, que le Christ soit d'abord connu. Ensuite, que le Christ soit cru. Il faut que les gens croient en Christ. Que le Christ soit confessé et que le Christ soit aussi exalté. C'était ça le souci de Paul et ça devait être aussi notre souci en tant que chrétiens. Faire connaître le Christ. Comment peut-on faire connaître le Christ? Moi, il arrive des fois, parfois j'en profite de faire connaître le Christ à ceux qui ne le connaissent pas pendant la période de Noël. Quand on est à Noël, on fête tous la fête de Noël et on fête le petit Jésus à la crèche. Et autour de moi, parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi ce signe? C'est quoi cet enfant? Et j'en profite parfois pour aussi faire, ne fût-ce que faire connaître cette personne. Il y a aussi le fait de le faire croire à d'autres personnes. Si on n'a pas la possibilité de le faire connaître, il y a d'autres qui ont cette possibilité-là, ce don de partager la bonne nouvelle et de faire croire à d'autres personnes que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est là pour nous sauver. Il y a aussi le fait de confesser que Jésus-Christ est vivant. C'est-à-dire, c'est le terme soit confesser ses péchés, il y a aussi le terme de proclamer sa croyance auprès des autres, que oui, moi je crois en Dieu, je crois en son Fils. Nous avons là la confession de foi. Et aussi nous devons partager que Jésus-Christ est exalté, c'est-à-dire au-dessus de tout. Et c'est ce que Paul faisait. L'essentiel pour lui que Christ soit connu des autres, des soldats, des militaires, de l'armée, de tous ceux qui étaient dans la cour. L'essentiel qu'il soit cru, l'essentiel qu'il soit confessé et l'essentiel qu'il soit aussi exalté, c'est-à-dire qu'il soit mis au-dessus de toute chose, qu'il soit élevé. Et s'il y a encore une chose qui compte énormément pour lui, qui lui tient vraiment à cœur, c'est son salut propre, son salut personnel. L'apôtre Paul veut être sauvé et un jour, il veut aussi, il désire voir Dieu face à face. Au verset 19, « Car je suis certain que toutes ces choses, toutes ces épreuves aboutiront à mon salut. » L'autre version, c'est « Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières. » C'est ça. L'apôtre Paul veut, son désir aussi est d'être sauvé et il veut voir le Christ face à face. Et pourquoi il dit cela, bien-aimé? À partir du 19 jusqu'au 26, Paul est assuré ici que Christ serait magnifié en lui. Au verset 20, jusqu'à la fin de la vie sur terre, par la vie et encore au-delà, par la mort. C'est-à-dire que Christ serait magnifié en lui jusqu'à la fin de sa vie. Ici sur la terre, d'abord par la vie et ensuite au-delà par la mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Paul compte sur le secours abondant de l'Esprit de Jésus-Christ. Et très modeste et délicat, il déclare avoir besoin des prières de ses frères de Philippe, pour être gardé en attendant la délivrance de son corps à la venue du Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous aussi, nous ne devons pas hésiter de prier pour nos bien-aimés qui sont dans des difficultés. Nos prières, bien-aimés, sont comme des missiles balistiques, que lorsque nous prions pour quelqu'un, cette prière-là arrive et Jésus-Christ seul peut exaucer. Si nous croyons que Dieu peut exaucer cela, il le fera, il exaucera ses prières. Christ, ici, est pour l'apôtre son unique objet, sa seule raison de vivre. Rien d'autre n'a d'attrait pour son cœur. Donc, c'est-à-dire que Christ vit en lui. Il cite alors le passage de Galates, chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Christ vit en lui et il est sa vie. Donc, Paul réalise en pratique ce qu'il déclare au verset 21, qu'il est le point central, qui est le point central de ce chapitre. Pour moi, vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est ce qui devait être aussi notre vie, nous, en tant que chrétiens. Oui, la vie, nous pouvons dire que lorsque nous posons des questions à d'autres personnes, certains disent que non, je vis pourquoi ? Parce que j'ai la sécurité sociale, ça va. Je vis pourquoi ? Parce que je travaille. Je vis pourquoi ? Parce que j'ai la protection. Oui, mais cela ne nous suffit pas en tant que chrétiens. Vivre, c'est d'abord le Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et à partir de là, mourir pour Paul est un gain. Pour lui, la mort est un gain. Ce changement de domicile, de ce local où il est, lui donnera une meilleure part de vivre sur terre, car il sera avec Christ. C'est-à-dire, il est sur terre, il vit parce que Christ est en lui. Et s'il meurt, il va être avec le Christ. Donc c'est ça son avantage. C'est vrai, dans la vie parfois, nous avons une autre image de ce que c'est que la mort. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir aussi une vision un peu positive de cette mort-là. Parce que nous serons aussi avec le Christ. S'il vit, c'est pour le Christ. Paul vit pour le Christ. Et s'il meurt, c'est pour être avec le Christ. C'était ça son objectif. Il n'y avait pas autre chose. Il connaissait très bien. Et bien aimé, pour vivre et pour mourir avec Christ, cela demande aussi une relation étroite avec le Seigneur. Cela demande une relation vraiment étroite avec Dieu. Et nous voyons ici que le sort de Paul présent contribuera aussi à son salut. Dieu lui donnera la grâce de ne pas le renier devant ses juges et de confesser son nom. La vie éternelle sera le prix de sa persévérance dans la persécution. Bien-aimés, aujourd'hui, il peut être que nous ne soyons pas en prison. Nous ne sommes pas en prison. C'est Paul qui était en prison. Mais aujourd'hui, la prison pour nous peut représenter nos petites difficultés que nous avons de la vie. Nos petites situations difficiles, ce que nous cherchons et nous ne trouvons pas. Toutes ces petites difficultés qui nous entourent ne doivent pas nous amener à renier le Christ. Mais ces difficultés doivent encore nous encourager à pouvoir annoncer le Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et pour nous les chrétiens, la mort devait être considérée comme un simple passage qui nous introduit auprès du Seigneur. C'est pour cela que certaines personnes qui sont dans le Seigneur disent que non, je n'ai pas peur de la mort. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. La mort, c'est par rapport à l'image que nous voyons de la mort. Mais ce qui se passe après la mort, je ne sais pas. Il y a Dieu seul qui sait ce qui se passe après la mort. Bon, il y a certaines personnes qui essayent d'interpréter grâce à des témoignages, grâce à des visions, mais seul Dieu seul sait. Et Paul, ici, je dirais, excusez-moi le terme, n'était pas bête quand il disait cela. Il sait qu'en mourant, malgré son procès, il sait qu'en mourant, il va se retrouver près du Seigneur, avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Il est un peu tiraillé. Il ne sait plus qu'est-ce que je dois faire maintenant. Est-ce que je dois mourir ou bien je dois encore rester ? Parce que pour lui, vivre, c'est en Christ. C'est-à-dire, vivre, c'est servir le Christ. Vivre, c'est faire pour, c'est travailler pour le Christ. Il se dit, est-ce que je dois mourir ou bien je dois rester encore pour continuer à encourager mes frères ? En mourant, il gagnait Christ. En vivant, il servait le Christ. Donc quand il meurt, il va gagner le Christ. Et s'il reste en vie, il continue à servir le Christ. Il est comme dans un chemin étroit, pressé entre les deux côtés. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en remet en Dieu. Il se remet à Dieu seul de faire le choix. Bien-aimés, nous aussi dans notre vie, parfois nous sommes tiraillés de deux côtés. Qu'est-ce que je dois faire dans ma situation ? Est-ce que je dois suivre ce que les autres disent? Est-ce que je dois faire selon moi-même? Ou bien, il y a aussi la prière. Parfois, nous devons laisser Dieu seul faire le choix de nos situations dans la vie. Et Paul, ici, il connaissait la gloire de Dieu. Il se disait que si je meurs, tant pis, je suis auprès du Christ. Et si je vis, c'est pour le servir dans la gloire. Et si nous sommes encore en vie aujourd'hui sur cette terre, nous devons penser à la gloire de Dieu, à cette gloire de Dieu. Nous devons penser à cela et au témoignage même pour le Christ et à son service, celui de prononcer Christ, d'annoncer Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est non-stop, c'est illimité. Nous devons le faire. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'occasion, Dieu nous a donné toute force. Et même lorsque nous sommes faibles, Dieu nous dit, demandez-moi de la sagesse, je vous le donnerai. Comment je peux faire pour faire convertir ma famille? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir annoncer cette parole? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir dire quelque chose, même sur Jésus-Christ, à celui qui ne le connaît pas? Demandons cela au Seigneur Jésus-Christ, il le fera. Vous savez, même Moïse, dans la Bible, il ne savait pas du tout bien prononcer, parler. Il ne savait pas parler. Et il se disait, mais comment je vais aller parler devant le Pharaon? Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Et la Bible nous dit que Dieu lui disait, non, laisse-moi faire. Moi-même, je saurai ce que je vais mettre dans ta bouche lorsque tu seras là. C'est pour cela que nous ne devons pas craindre. Lorsque nous avons quelqu'un à cœur, que Seigneur, je veux que mon oncle, je veux que mon beau-père, je veux que ma famille, je veux que mon ami, je veux que mon chef te connaisse. Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur le fera en ce moment-là. Et c'est Dieu seul qui sera glorifié. C'est pour cela que nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons prononcer le nom de Jésus-Christ. Nous devons annoncer, nous devons évangéliser jusqu'à ce que le Christ revienne. Nos cœurs doivent être vraiment serrés par l'amour de Christ afin que nous vivions plus que nous-mêmes, plus même que nous-mêmes. Nos cœurs devaient être serrés par l'amour de Christ, afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui, pour nous, est mort et ressuscité. Annoncez que le Christ est ressuscité. Annoncez que le Christ est vivant. Aujourd'hui, il intercède même pour nous, la Bible dit. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Quelqu'un qui intercède pour nous, il est là pour notre bien et non pas pour notre malheur. C'est pour notre bien qu'il est là. Et la Bible nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut nous séparer? C'est ton petit péché? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nos souffrances? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien du tout. Il y a Christ qui est au milieu de nous. Il est là et il est à l'œuvre. L'apôtre Paul a la conviction ici intime qu'il est plus nécessaire qu'il demeure encore en vie pour servir les intérêts de son maître et travailler au bien des membres de l'église d'Éphèse. Donc pour lui, s'il vit, c'est pour la croissance spirituelle de l'église. S'il vit, c'est pour leur affermir encore. S'il vit, c'est pour leur joie, mettre en eux leur joie. Bien-aimés, c'est ce qui doit être aussi pour nous aujourd'hui. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour la croissance spirituelle de la parole de Dieu parmi nous et parmi les autres qui en ont besoin. Si nous vivons aujourd'hui, c'est pour la foi, pour que la foi soit affermie dans l'Église et parmi nos frères. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est pour avoir la joie de Christ en nous, dans la louange, dans les intercessions, dans l'adoration, dans les chants et dans l'édification, bien-aimés. C'est pour cela que en tant que chrétiens, nous devons nous considérer comme ceux qui ont de la valeur, pas devant les hommes, mais devant notre Dieu. Nous avons beaucoup de la valeur devant notre Dieu. Nous avons de la puissance, nous avons même de la force. Il suffit seulement d'accepter, il suffit de le croire, il suffit de dire non, Jésus-Christ, aide-moi. Il suffit seulement de s'engager, comme les Philippiens, qui étaient là avec plein de zèle et plein de courage, malgré les difficultés. Ils annonçaient le Christ. Et non pas aussi avoir cet esprit de passer du temps à discuter ou à se disputer concernant la parole de Dieu ou être jaloux des autres qui progressent, mais Dieu est parmi nous. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont unis, Dieu est là. Il est avec nous. Et nous devons profiter de cette relation. C'est à partir de cette bonne relation que nous avons avec le Christ que nous pourrons progresser, que nous pouvons progresser. Bien-aimés, je vous inviterai à ce que nous puissions nous lever, que nous puissions prier et annoncer cette parole, comme l'apôtre Paul. Dans la prison où il était, il continuait à annoncer la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Demandons ce courage, demandons ce zèle auprès du Seigneur. L'apôtre Paul ici, il a demandé aux Philippiens, « Priez pour moi !» Et nous pouvons aussi donner ce sujet de prière pour que nous puissions prier entre nous afin que l'évangélisation se lève ici à Saint-Maur, dans la ville de Saint-Maur, que l'évangélisation puisse progresser par-ci, par-là. Car Dieu est avec nous. Nous ne devons pas avoir peur de tout cela. Nous ne devons pas avoir peur de notre entourage. Nous ne devons pas avoir peur de notre situation. L'apôtre Paul n'avait pas peur. Même devant l'empereur, il a même exigé un rendez-vous avec l'empereur. Pourquoi ? Pour profiter seulement de parler de la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Annoncer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il y revienne. Amen. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Merci Père éternel parce que tu es vivant. Merci éternel parce que tu es un Dieu d'amour. Merci éternel parce que tu ne nous considères pas parfois comme avec nos petites fautes que nous avons. Mais Seigneur, ta présence parmi nous nous demande aussi de reconnaître nos fautes et aussi d'avoir du zèle, Seigneur, pour pouvoir annoncer ta parole. Merci encore une fois de plus de cet exemple que tu nous as donné cet après-midi, de voir comment Paul, ton apôtre qui était zélé à pouvoir annoncer la parole de Dieu partout où il était. Merci Seigneur de pouvoir le faire aussi pour chacun de nous. Oui, parfois nous sommes faibles, parfois nous avons peur, parfois nous ne savons pas comment le faire. Mais éternel, ta main est tellement puissante que elle peut agir aussi dans nos vies pour que nous puissions profiter de toutes les occasions que tu nous donnes, Seigneur, pour pouvoir annoncer ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu le feras en nous. Que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.